L'émission jazz d'Aligre FM.
Tous les samedis à
17h. Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. On est heureux de vous retrouver pour cette émission un petit peu inhabituelle, en tout cas sur un créneau un petit peu inhabituel. Vous le savez, cette semaine, Aligre a décidé de consacrer sa semaine entière au thème des associations. Alors pourquoi ? Parce que nous allons fêter aujourd'hui, 1er juillet, le 125e anniversaire de la loi, ce qu'on appelle la loi de 1901. Et donc toutes les émissions, une grande partie des émissions de la semaine vont être déclinées sur ce thème-là. Alors, pour ce qui concerne le jazz, avec Alex Dutille, qui est là. Bonjour Alex.
Bonjour Jean-Marc. Je réalise que nous faisons tous les deux une association à but non lucratif aussi.
À but non lucratif, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on fait cette association. Avec Alex, on s'est posé la question du rôle des associations dans le jazz. Et on s'est dit qu'on pouvait avoir un double regard. Un regard d'abord historique des associations qui ont existé indépendamment des grands circuits. Ça a commencé aux États-Unis, ça s'est poursuivi ensuite en France. Et en deuxième partie d'émission, on a le plaisir de recevoir Antoine Boss. Bonjour Antoine.
Bonsoir messieurs.
Que les auditrices, auditeurs d'une radio concurrente, une petite radio...
Une radio amie.
Une radio amie, voilà, ont l'habitude d'entendre, et qui est délégué général de l'AJC, l'association Jazz Croisé, qui est un formidable outil, j'allais dire presque un outil démocratique, mais on aura l'occasion d'en reparler.
Et d'ailleurs, je me permets, j'ai tellement le réflexe que j'ai dit bonsoir parce que j'étais persuadé d'être sur cette radio. Bonjour messieurs, je recommence.
Et aujourd'hui c'est bonjour maintenant, merci Antoine.
Alors, on va commencer à regarder un petit peu dans le rétroviseur, Alex Dutille.
Je vais vous parler d'une époque que Antoine Boss, et peut-être même ses parents n'ont pas connue. C'est le milieu des années 60 à Chicago, parce que c'est là qu'on peut dater, mais très précisément, la naissance du mouvement associatif dans le jazz aux États-Unis. Et même en France, parce qu'il n'y en avait pas à cette époque-là d'associations avec des objectifs d'intérêt général. Et en fait, ça s'est passé à Chicago et ce n'est pas un hasard. Parce que la scène musicale de Chicago, à côté du blues, pour ce qui est de la scène du jazz, c'est une scène alternative d'une certaine façon. On est dans l'essence de la scène new-yorkaise, où comme pour Paris en France, sont les compagnies de disques pour la plupart, les clubs les plus importants, etc. Alors, il y a l'exception de la côte ouest et de Los Angeles et San Francisco, mais globalement, pendant longtemps, le jazz américain était basé et centré à New York, en tout cas pour le business. Et Chicago a toujours eu une distance, un regard avec une distance par rapport à ça, y compris avec les normes formelles du jazz. Par exemple, un orchestre aussi déjanté que Sun Ra, il est apparu à Chicago. On ne peut pas imaginer qu'il soit apparu à New York, ou à Philadelphie, ou à Washington, ou à Los Angeles. C'était à Chicago. Et donc, il y avait à Chicago, dans les années 60, un terreau comme ça, très favorable à l'innovation, et des musiciens de la communauté afro-américaine se sont regroupés pour défendre des valeurs à la fois esthétiques, de créativité, et non pas de valeur du marchand, d'un jazz consommable par un grand public a priori. C'était d'une part ce critère de créativité, et d'autre part un critère d'ancrage social dans la communauté afro-américaine. Cette association s'est appelée l'AACM, Association pour l'avancement des musiciens créatifs, si on veut le traduire mot à mot, et elle existe toujours. Depuis 1965, le premier président en a été Mual Richard Abrams. Ils étaient quatre à cofonder cette association. Mual Richard Abrams, qui est décédé il y a quelques temps, mais il n'y a pas si longtemps, a très vite passé la main, parce que c'est une association, et en ce sens, elle va servir de référence à la France quand des associations vont se créer ici, extrêmement démocratique. Il n'y a pas de confiscation du pouvoir par un président charismatique qui va rester là pour 20 ans et maîtriser les choses à sa façon. Il y a des réélections tous les ans. Alors, je crois qu'ils ont un mandat de 2 ans, si je me souviens bien. c'est une association qui a passé le relais à des musiciennes très tôt, bien avant qu'on parle de la place des femmes dans le jazz comme aujourd'hui. Enfin bref, exemplaire à plus d'un titre. Et j'avais envie de vous faire entendre, alors pas de 1965, mais d'un peu plus tard, la musique de Mual Richard Abrahams. C'est en 95, plutôt sur la fin de sa vie, un hommage à deux musiciens qui venaient de décéder cette année-là, quelques semaines avant l'enregistrement. C'est Julius Hemphill et Don Pullen. Et Don Pullen, qu'on a connu avec Mingus. Et Julius Hemphill, il est extrêmement important dans ce sujet-là des associations, parce qu'il a lui-même appartenu à un autre collectif sous forme associative qui s'est créé à Saint-Louis et qui s'est appelé le Black Artist Group. Groupe B-A-G, et ce Black Artist Group a eu des musiciens comme Oliver Lake ou Julius Hemphill, qui ont été des compagnons de route et de combat des musiciens de la ACM. Et il y a eu une conjonction comme ça d'intérêts et de préoccupations entre ces deux collectifs dès le milieu des années 60. Le Black Artist Group s'est créé en 66, s'est arrêté en 72, contrairement à la ACM. Antoine Boss.
Mais sur la côte ouest, il y avait ce même mouvement-là, alors de manière un peu plus petite, hein, évidemment, par rapport à l'ACM, mais c'était l'UGMA, en fait, l'Unions of Gods, Musicians and Artists Ascension, fondé par Horace Tapp Scott, dans les quartiers de Los Angeles, qui a prévalu pendant des années, etc., qui a fait vivre tout un système communautaire aussi sur ces territoires-là, et qui a inspiré des musiciens qu'on connaît de la scène américaine, même des musiciens qui ont échappé au champ du jazz, comme des gens comme Kendrick Lamar, qui sont issus en fait de ces mouvements-là. Et c'est vrai que la ACM a été à la fondation, à la base, et après il y a eu des graines qui ont essaimé un peu partout aux États-Unis, et ce mouvement-là est fascinant sur le champ américain, sur le sol américain.
La musique de Mual Richard Abrahams, c'est son hommage à Sred Gill et Don Pullen.
Thank you.
Voilà un extrait de ce tribute to Julius Emphill et Don Pullen. J'ai dit par erreur, j'ai parlé de Henry Threadgill. Mais c'est parce que Threadgill, comme Anthony Braxton, comme Wadada Leo Smith, fait partie des grands noms de la ACM et des musiciens sans, qui n'auraient probablement pas pu voir le jour sans le support collectif de cette association de Chicago. Il faut dire qu'il y avait aussi à Chicago un label de disques, Delmark, avec un K à la fin, qui a accompagné tout ce mouvement-là. Et alors après, les musiciens sont partis sur d'autres labels. Mais ils avaient des conditions, ils avaient des endroits où jouer, ils avaient des lieux souvent alternatifs pour jouer, mais ils avaient aussi un label. Et donc, il y a eu une exposition possible, notamment dans d'autres villes et auprès d'autres musiciens, qui a été rendue possible grâce à ça. Et puis, le groupe le plus célèbre de l'ACM, c'est sûrement l'Art Ensemble of Chicago, l'Art Ensemble de Chicago, qui est venu séjourner à Paris à partir de 69, pendant quelques temps, mais qui a été, ils ont été des ambassadeurs de la philosophie de l'ACM pendant plusieurs décennies. Et là, comme on vient d'entendre un tribute à deux musiciens qui venaient de disparaître, j'avais envie de vous faire écouter par l'Art Ensemble of Chicago, dans un album qu'ils ont publié en 1990 chez ECM, leur hommage à Charlie Mingus qui venait de disparaître. C'est Charlie M. L'Art Ensemble of Chicago, 1990, l'album Full Force, chez ECM, quand même, grande classe, pour les marginaux de Chicago. Et c'était cet hommage à Charles Mingus, signé Lester Bowie, pour la composition. Et puis, je voulais aussi insister sur, je l'avais mentionné tout à l'heure, sur le fait que très tôt, à la ECM, les musiciennes ont eu toute leur place. Alors aujourd'hui, il y a une musicienne super importante qui a d'ailleurs été présidente pendant quelque temps de l'association. C'est Nicole Mitchell, la flûtiste, qu'on a beaucoup vue en Europe, plutôt sur des scènes de musique improvisée. Et avant elle, mais elle est toujours de ce monde, c'est une musicienne très ancrée dans le blues. Elle est pianiste, mais elle peut jouer de l'orgue, elle peut chanter, et elle témoigne de ce que Chicago était une terre de blues autant que de jazz. C'est Amina Claudine Myers.
Yeah.
Amina Claudine Meyers en 1983, The Circle of Time, c'était aussi le titre de son album sur un label européen, Black Saint, un label italien. Et Black Saint, en Italie, a beaucoup documenté les musiciens de la ACM et d'une façon générale, les musiciens un peu du jazz alternatif américain dans ces années-là.
Donc ils avaient des relais pour être distribués
Ah, mais c'était dans ces années-là, c'était une musique chez les amateurs de jazz qui était très vivante et très populaire d'une certaine façon. Anthony Braxton, dans les années 70, était une star, comme l'a été Steve Coleman dans la décennie 80. Enfin, c'était des musiciens importants et ils n'étaient pas dans le jazz bien pensant et bien propre sur lui de la communauté new-yorkaise. C'était ce jazz-là qu'on voyait en Europe.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et du côté de la France, ben c'est pareil, c'est pas à Paris, mais dans une autre métropole que la première association est apparue, c'est à Lyon, l'ARFI, l'association à la recherche d'un folklore imaginaire. Les initiales disent tout sur sa distance à la lettre du jazz. C'était une association qui a regroupé des compositeurs autant que des improvisateurs. Et là aussi, un fonctionnement démocratique exemplaire. Je me souviens que... Et donc, ça a été créé en 77, l'ARFI, autour de Maurice Maire, Louis Clavis, qui en faisait partie à ce moment-là, Christian Rollet, Alain Gibert. Il y avait toute une génération de musiciens déjà accomplis sur Lyon. Et dans cette association, les décisions ne se prenait qu'à la quasi-unanimité. Il fallait convaincre et on ne se contentait pas d'une majorité plus une voix. Et souvent, quelqu'un qui était extrêmement minoritaire dans sa proposition qui pourrait paraître incongrue, il était écouté de tout le monde. Il avait la possibilité de faire passer sa proposition alors qu'au départ, personne n'y croyait. Et ça a duré très longtemps. L'ARFI existe toujours. Et il y a toujours ce fonctionnement d'extrême démocratie dans leur fonctionnement. Le groupe le plus emblématique qui a sillonné l'Europe depuis cette époque-là, là je vous l'ai fait écouter en 81, c'est le Workshop de Lyon. Donc que Louis Clavis allait quitter pour mener sa propre carrière au bout d'un moment. Mais leur Moulin Noir était une composition de Maurice Merle, grand mélodiste dans l'ARFI.
Thank you.
Moulin Noir, une composition de Maurice Merle pour le Workshop de Lyon. Il en était le saxophoniste. Musique Basalt, c'est le titre de leur album, sur le label de l'Arfi, Arfi Move. Et alors, comme on disait, je disais tout à l'heure pour la ACM, qui a eu un label associé, qui ne dépendait pas directement d'eux, mais qui était sur Chicago, là, l'Arfi a fait beaucoup plus fort parce qu'ils avaient un lieu qui leur était dédié, dont ils avaient la gestion, qui s'appelait les Clochards Célestes. Et puis, ils ont tout de suite créé un label. Ils étaient en autoproduction. Mais en tout cas, ils avaient les moyens de jouer à Lyon. Ils ont passé plusieurs décennies avant d'avoir le moindre centime de francs et d'euros ensuite de la municipalité de Lyon. Ils se sont développés sur leur propre force et leur propre force musicale, et avec une reconnaissance partout en Europe. Ça a été un groupe exemplaire pour beaucoup d'initiatives dans les régions. 77, ça a été le lancement. Dans la foulée, il y a eu plusieurs autres métropoles hors de Paris qui ont créé des associations. Je me souviens du GRIM à Marseille, du groupe de recherche d'improvisation musicale. Là aussi, il n'y avait pas le mot jazz, mais c'était des improvisateurs. Et puis, il y a eu des transfuges. Yves Robert, le tromboniste qui faisait partie de l'Arfi de Lyon, est allé s'installer à Marseille et a fait partie du GRIM. Il y a eu des échanges comme ça. Il y a eu à Rouen une autre association. Il y a eu l'AJMI à Avignon, qui a été beaucoup plus orienté sur la diffusion, sur le fait de proposer des concerts. Nos voisins suisses ont eu l'AMR, l'association des musiciens qui étaient regroupés autour de Genève et de la Suisse romande. Il y a eu un mouvement qui s'est développé aussi en Europe, chez les musiciens anglais, les musiciens néerlandais, les musiciens allemands. Il y a eu des regroupements associatifs. Mais l'Arfi a joué un rôle pionnier. Et voilà, j'avais envie de leur rendre hommage, notamment en ce début du mois de juillet, puisque Alain Gibert, qui avait eu l'un des groupes qui ont été à la naissance de l'Arfi, avait monté avec ses camarades la Marmite Infernale, un big band en hommage à une période d'anarchisme débridé de la société française. Et évidemment, quand il propose un arrangement de la Marseillaise, qu'on va écouter très officiellement dans 13 jours, c'était avec la distance et l'impertinence des arfiesques de Lyon. Lama, comme l'animal, c'est dit yes.
c'est Alex Dutille dans Jazzland sur LYFM tous les derniers samedis du mois, 17h-18h. C'est l'heure du plaisir du jazz. Bon, ces heures-là, ça sera pour la rentrée de septembre, Jean-Marc.
Ah, mais on pourra vous réécouter, Alex Dutille, tout l'été dans les rediffusions d'LYFM.
Je pourrais me réécouter allongé sur une plage landaise
devant un bon cocktail.
Voilà, très bien. Oh, bah, le cocktail, c'est l'océan en face. Hein. Juste un dernier mot sur l'ARFI. C'est aussi une association qui a été très importante sur le côté pluridisciplinaire. C'est des musiciens qui partaient du jazz, mais avec une inventivité incroyable. On vient de l'entendre sur l'arrangement de Lama Seyès, mais ils ont travaillé avec la danse, ils ont travaillé avec le cirque, ils ont beaucoup travaillé avec le théâtre, avec des films muets, et même avec des grands cuisiniers lyonnais. Il y a eu des spectacles avec cuisine sur la scène et la musique qui allait avec, et dégustation dans le public, etc. Enfin voilà, c'est vive les associations vivantes comme ça.
Eh ben justement, merci Alex, vous me donnez une bonne transition.
Je vous ai mis l'eau à la bouche.
Absolument, parce que vous avez beaucoup parlé d'outils démocratiques et puis de lieux pluridisciplinaires. Et ben ça nous donne l'occasion d'accueillir, de re-saluer Antoine Bosse, donc délégué général de l'association Jazz Croisé. Jazz et Croisé, pardon. Et aussi producteur et animateur sur FIP, sur Jazz à FIP. Antoine Bosse, on vient d'entendre les ancêtres, l'ARFI. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'AJC ? Comment est né l'AJC dans le prolongement de la FIJMA, dont on peut rappeler s'appelait l'Association des festivals innovants en jazz et musique actuelle ? L'AJC, formidable outil qui démontre la vitalité du jazz actuel. Et quand on parlait de pluridisciplinarité, ce n'est pas simplement la musique. L'AJC, c'est aussi beaucoup de travaux périphériques autour du jazz. Comment est né l'AJC ? Bonjour.
Rebonjour Jean-Marc, rebonjour Alex, cette fois je ne vais pas me tromper. Peut-être il faut remettre un contexte historique, un peu comme a su le faire Alex avec l'ARFI. C'est celui de musique qui s'extrait d'un champ jazzistique un peu particulier. Donc là, aux abords des années 70 pour l'ARFI. Et donc de festivals qui se mettent en place sur le champ de ces musiques dites improvisées ou issues de cette grande famille des musiques improvisées. Donc déjà un petit peu loin de tout le creuset d'un jazz un peu plus commercial qui pouvait exister déjà à l'époque. Alors il s'agit de prendre des grosses pincettes quand on dit ça, mais en tout cas on est dans une autre mouvance de ces musiques-là, issues du free européen, etc. Et à ce moment-là, certains festivals se retrouvent autour d'une idée, d'une forme de collégialité, en se disant « nous partageons des valeurs qui sont celles d'un territoire, nous imaginons notre action construite sur le temps long, sur ce même territoire, pas uniquement le temps d'un festival, les 2, 3, 4 jours que dure ce festival. Nous l'imaginons construit avec les gens qui peuplent ce territoire-là, et donc ce qu'ils peuplent, c'est aussi les musiciens et les musiciennes du coin, donc c'est un vrai attachement local. » Une vraie envie de travailler sur la valorisation d'un jazz français. Alors attention, on n'est qu'en 2026, donc je vais faire attention quand je dis jazz français, mais il ne s'agit pas de le sous-entendre, d'entendre une forme d'opposition à autre chose. C'était au contraire une forme de valorisation de ce qui pouvait se faire sur un terrain de jeu qui était dans le même temps, parce que tu parlais de l'ARFI, Alex, mais il y a aussi à ce moment-là des écoles qui se mettent en place, énormément, des écoles associatives, et donc qui commencent à participer de cette... ce bouillonnement en fait de nombre de musiciens et de musiciennes qui arrivent, et il s'agit de les faire jouer, ces artistes. Donc ces festivals se sentent investis de cette mission-là, une sorte de mission d'intérêt général, et commencent leur activité dans les années 80, autour des années 80, et une dizaine d'années plus tard, pour ceux qui ont réussi à se structurer, ils se disent « on est vraiment très proches les uns des autres, travaillons ensemble, et c'est ainsi que naît la FIJMA ».
Alors, aujourd'hui, 1er juillet, on fête les 125 ans de la loi 1901. C'est l'objet de notre semaine thématique. Est-ce que l'association, la structure associative, pour vous, était la structure idéale ? Est-ce que entre association et coopérative, il y a une différence ? Est-ce que vous fonctionnez comme une coopérative ?
Non, nous sommes une association. AJC est une association. Après, nos adhérents ont des formes un peu variées. Pour près la plus grande majorité, près de 95%, sont des associations. Certains d'autres fonctionnent sous les formes en effet de coopératives, etc. C'est encore très rare hein, dans le champ. Très rare. Oui, c'est très minoritaire en tout cas dans le champ culturel. Après, ça a des avantages conséquents, mais ça aussi des modes de gestion tellement particuliers sur le côté gestion collective et partagée que ça rend en fait les gestions au jour le jour un peu plus complexes. Le mode associatif est beaucoup plus libre par rapport à ça et permet beaucoup plus de liberté. Après, ça dépend ce qu'on met dans ces statuts et la manière dont on bien appréhende bien ce modèle associatif. Je pense que 125 ans plus tard, ce dont on devrait peut-être se rappeler quand même, c'est que derrière ce modèle, il y a un modèle politique très marqué. On parlait tout à l'heure d'outils démocratiques, j'aurais même envie de dire de contre-pouvoir à un endroit dans nos musiques, mais pas que. Moi, je suis très heureux d'être là pour parler de jazz, c'est de là d'où je viens et là où je gravite toutes mes journées, mais je me rends compte, à force de côtoyer mes collègues des musiques trad, des musiques du monde ou des musiques contemporaines, que nous partageons les mêmes problématiques. Je vais la résumer de manière un peu abrupte, etc., qui sont celles d'une forme d'artisanat musical qui s'oppose à une forme d'industrie de la musique et dans lesquelles nos vies quotidiennes, celles des musiciens et des musiciennes qu'on accompagne, sont mises en danger à un endroit et dans lesquelles, pour, je pense foncièrement, nos oreilles sont mises en danger aussi à force d'écouter des choses qui n'ont que peu d'intérêt et peu d'engagement par rapport à tout ce que doit représenter ce champ musical qui est celui de la diversité. Et donc là, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est pour ça que 125 ans plus tard, je le reposerai à cet endroit-là et j'irai même plus loin sur tout ce qui va être... Enfin, le mouvement associatif aujourd'hui en France est très marqué en fait, est très fort et très puissant. Il est seulement mal vu, mal reçu, quand on voit ce qu'il fait en termes de culture, de sport, de santé, de social, etc. C'est le monde associatif qui aujourd'hui est parmi les plus grands employeurs en fait sur le sol français.
Un emploi sur 10 dans le privé.
Exactement.
Avec des missions d'intérêt général globalement.
Exactement. Rappelons quand même qu'une partie des subventions que touchent nos structures sont des subventions qui résonnent et qui existent par le simple fait qu'elles sont là pour compenser ce que l'État ou les collectivités publiques ne sont pas en mesure de faire. Une subvention, ça ne vient pas de nulle part, c'est un marché, un deal, plutôt pour ne pas dire marché, passé avec une collectivité qui a dans ses missions telle et telle chose et qui dit « je ne peux pas les assumer, absolument, je n'ai pas les compétences, les outils en interne, donc je vais déléguer cette compétence et ces outils et ce travail-là à une structure qui présente les compétences et les outils en échange d'une certaine somme d'argent. » Donc, quand on entend qu'il y a une forme de gabégie autour des subventions, ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, le problème, c'est que si demain, ça ne se fait pas, il y aura de moins en moins de distribution de plateaux repas aux personnes en situation de précarité et seules. Il y aura beaucoup moins de festivals, beaucoup moins de lieux de concert, beaucoup moins d'espaces de vie, etc. Beaucoup moins d'associations sportives aussi pour nos enfants et pour tous les gens. Donc rappelons quand même ce cadre-là, il est important.
Le premier secteur qui recourt aux associations, c'est effectivement le secteur sportif, 25% pour 25%, et après vient la culture. On fait une petite pause musicale et après on va parler un peu de la gouvernance, de choses très terre à terre, de vos ressources, etc. Nefertiti, ça vous parle ?
Ah bon ?
Allez, on écoute.
Thank you.
Et vous êtes bien sûr à Aligre FM 93.1, Jazzland, en compagnie de Antoine Boss et d'Alex Dutille. Et là, on venait d'entendre Nefertiti, issu du dispositif Jazz Migration. Donc Nefertiti, là c'était un live au Triton en juillet 2022. Nefertiti, c'est Delphine Do au piano, Camille Motion au saxophone soprane, Pedro Ivro Ferreira à la contrebasse et Pierre Demange à la batterie. Pourquoi on a passé ça? Parce que le prolongement, c'est le dispositif Jazz Migration qui est très important.
Oui, c'est aujourd'hui le cœur de notre action. En tout cas, c'est le morceau le plus visible, peut-être, devrais-je dire. Il occupe une grande partie de notre travail, mais il est surtout la face visible de ce qu'on fait en tant que fédération, en tant que réseau. Parce qu'il est à la base de ce qui a été la FIJMA, puis AJC aujourd'hui, c'est-à-dire ce travail sur comment des structures de diffusion pourraient être en mesure d'accompagner l'émergence et l'insertion d'artistes, de jeunes artistes, de plus ou moins jeunes artistes, dans le champ du jazz, dans la durée, en sachant que, de toute façon, il n'y a pas d'entourage. Puisque la réalité de nos musiques, c'est, et encore plus dans ce champ musical-là, et encore plus quand on est jeune, c'est que les entourages sont quasi inexistants. Je ne sous-entendrai pas qu'il n'y en a pas, je dirais qu'ils sont quasi inexistants. C'est-à-dire qu'ils sont réservés à certaines musiques qui peuvent potentiellement être un peu plus populaires que d'autres, ou à certains artistes qui peuvent être un peu plus bankable. Je mets des gros guillemets autour de ça. Mais en tout cas, il faut en tenir compte. Donc aujourd'hui, si on souhaite qu'il y ait un renouveau artistique, qu'il y ait de nouvelles formes musicales qui se créent, bah, il faut que certains s'en occupent. Et c'est le pari qui a été pris par la FIJMA à l'époque en créant Jazz Migration, et c'est celui qu'on perpétue avec AJC.
Jazz Migration qui est le choix de 4 groupes émergents chaque année avec un accompagnement pour
2 ans.
Sur 2 ans, en incitant toutes les associations partenaires, enfin membres d'AJC, à les programmer dans
même
leur festival, leur salle, etc.
Même au-delà, justement.
Et il y a aussi un accompagnement de formation et tout ça.
Exactement. C'est 2 ans d'accompagnement, de la formation professionnelle et artistique, de l'accompagnement en résidence, du travail autour d'outils très simples, hein, de photos, de textes, etc., pour accompagner les artistes qui, des fois, arrivent un peu tout nus, sans rien. Et puis, avec de la très belle musique, mais en fait, de la très belle musique, sans pouvoir la promouvoir, bah, c'est toujours compliqué de passer à la radio si on n'a pas des jolis sons.
Vous voyez, Jean-Marc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un outil d'intérêt général.
Absolument.
Ça, c'est fondamental.
Le relais, les associations sont le relais de l'action publique, c'est évident. Alors, au niveau de la gouvernance d'une association comme l'AJC, comment on devient adhérent? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, est-ce que, on parlait d'intérêt général, est-ce qu'il y a aussi un intérêt territorial?
Une des particularités étant quand même que nous sommes une fédération ou un réseau de professionnels. Donc en fait, on ne regroupe que des structures de diffusion, déjà d'une part, donc festivals, des lieux, etc., ce qui limite un peu le choix, réunis autour d'une charte de valeurs, ce qui est aussi, j'allais dire, exclut, mais de fait, on n'exclut personne, mais en tout cas, on pose des bases qui sont celles que je mentionnais auparavant, soutien à l'émergence, l'intérêt du territoire et des logiques de territoire, et donc qui à un endroit de fait font que certains festivals ou certains lieux ne se sentent pas du tout à l'aise dans cette démarche, et puis surtout d'être dans cette démarche collective qui est quand même, il faut s'engager, hein. faut accepter, comme dans les collectifs dont parlait Alex précédemment, de s'engueuler, de ne pas être d'accord, etc. Et tout. Et c'est le propre d'un réseau comme le nôtre. Donc ça génère des frustrations de temps en temps.
Mais c'est un outil, voilà. C'est aussi un outil de démocratie où ça débat, où ça s'engueule, où ça, voilà, où il y a des décisions qui émergent. Mais c'est
on essaye à plein d'endroits. On a plein d'outils pour ça.
C'est du relais démocratique, bien sûr.
On essaye à plein d'endroits, plein d'outils. Là, demain, non, après-demain, non, demain, exactement, demain, le 2, pardon. Le 2, on se retrouve autour d'un webinaire en Zoom avec nos adhérents pour parler justement des tensions politiques du moment, etc., et de voir un peu comment AJC peut se positionner. Il s'agit de créer en fait différents canaux pour accompagner la parole de nos adhérents, et puis aussi le fait d'être entendu dans des temps où je pense que tout le monde, vous comme moi et les gens qui nous écoutent, sentent bien que certaines paroles sont un peu moins présentes aujourd'hui. Et donc il est dur aujourd'hui de s'exprimer pour dire que la culture compte, que les territoires comptent, et il est dur d'être entendu. Et donc on a besoin de cette force collective de temps en temps. Donc il y a des formes de, j'allais dire, de calinothérapie entre nous pour se rassurer, etc. Et puis surtout de parler de fond, c'est-à-dire d'action collective.
On va parler aussi du revers de... Tout est beau, hein, tout est magnifique, mais on va parler aussi peut-être des nuages qui commencent à poindre sur le secteur associatif. D'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle ce soir, vous pourrez nous retrouver à la Maison des Métallos. On va faire une pause musicale avec Nubu, qui est aussi issu de Jazz Migration. Nubu, avec une joueuse de serpent.
Tout à fait.
Et oui, vous êtes bien sur Jazzland à l'YFM 93.1 à l'occasion de cette émission spéciale sur les associations. On a le plaisir de recevoir Antoine Boss et je suis accompagné d'Alex Dutille. Et là, on venait d'entendre Nubu. Alors, Nubu, c'est aussi un des lauréats de Jazz Migration. Nubu, c'est Elisabeth Coxal à la voix et au serpent, Victor Auffray au flugabone, Thibaut Ducheron, au trombone, Marion Fluo à la contrebasse et Guillaume Lys aux percussions. C'était tiré de l'album Sisters, paru en octobre 2025. Alors, Antoine Boss, on a dit que tout était beau, magnifique, mais est-ce que vous voyez, vous, des nuages poindre sur le secteur associatif, et notamment la question fondamentale des ressources budgétaires, puisqu'on voit que la culture est exposée aujourd'hui beaucoup à des coupes budgétaires?
Si j'ai laissé entendre que tout était beau et joli, je me suis peut-être un peu trompé, mais dans l'idée, l'idéal est beau et joli. L'idéal est beau. En tout cas, ça, j'en suis convaincu, et c'est peut-être pour ça en fait que ça tient. C'est parce qu'en fait, c'est l'idéal qui nous tire et qui continue de nous pousser sur ce chemin-là. La réalité est qu'aujourd'hui, et depuis quand même plusieurs années, ce secteur associatif et culturel, de manière globale, est en grande difficulté. L'imposition qui nous est faite de nous conformer à des financements ou à nous dire aller chercher du privé, de l'argent privé, etc. est une sorte de transposition d'un langage capitaliste, etc. Qui n'a pas lieu aujourd'hui en France, en fait, en tout cas qui n'existe pas, qui pourrait exister. Ce qui serait pas en mal en Angleterre, par exemple, des structures comme Tomorrow's Warrior, qui est un très beau collectif autour de l'engagement des jeunes musiciens, tient à de l'argent privé, mais en fait c'est aussi parce que en fait, c'est le système anglais qui amène à ça. Aujourd'hui en France, on n'est pas du tout formé à ça.
On peut parler des grandes fondations américaines aussi,
par exemple, tout à fait,
qui donnent les moyens à des grands créateurs, hors système commercial, de continuer à travailler. Mais ça paraît impensable ici.
en tout cas pour le moment, et dans la structure telle qu'elle est faite, et puis encore plus sur ce champ des musiques. On le voit que ça marche certainement très bien sur le champ de la mode ou sur d'autres endroits, mais sur le champ des musiques expérimentales ou improvisées ou des musiques non commerciales, c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, AJC se porte bien en tant que tel, la structure se porte bien, mais AJC n'a pas de raison d'exister si nos adhérents ne se portent pas bien, et malheureusement c'est très compliqué chez eux. On a énormément de structures qui sont en grande difficulté, entre les baisses de financement issues des collectivités locales, celles de l'État qui sont très impactantes aujourd'hui avec des baisses. On vient de sortir une petite étude qui fait quand même état de baisses très marquées auprès de toutes les structures que je qualifierais de fragiles, donc les petites ou moyennes structures de diffusion, celles qui ne sont pas labellisées et qui, elles, sont en très grosse souffrance. Et à ça, vous rajoutez le Centre National de la Musique qui perd des moyens aussi ou qui les oriente dans des autres endroits, plutôt celui de l'industrie. Et vous avez un cocktail qui est un peu compliqué.
Mais d'ailleurs, ça m'amène à signaler aux auditrices et aux auditeurs que, indépendamment de la partie visible, hein, on parlait de jazz migration, l'AJC fait un formidable travail d'observatoire et d'études avec des publications qui sont absolument passionnantes. Et j'invite les auditrices et auditeurs à aller sur le site de l'AJC et de découvrir ces publications sur des sujets d'ailleurs qui parfois ne sont pas du tout abordés nulle part ailleurs. Par exemple, sur la transition énergétique, par exemple. Ben ça, on a vu ça effectivement, des études très, très fournies, très documentées. Juste une dernière question avant qu'on se quitte. On parlait des fondations américaines, on parlait de ce qui se passait en Angleterre. Vous travaillez avec un réseau européen. Est-ce que vous voyez des AJC en Europe, d'autres agissent en Europe, entre guillemets?
Heureusement, on a quelques partenaires dans ces mêmes logiques-là. Une des difficultés étant, je pense, qu'une partie de ces partenaires sont des structures type gouvernementales, c'est-à-dire donc sont des fédérations issues de volonté de l'État, donc ont peut-être un peu moins de marge politique, de manœuvre politique ou d'engagement politique que la nôtre. Donc des fois, le langage se dissocie entre export de musique, j'exporte ma musique en Europe, etc., ce qui est très intéressant, mais ce qui n'est pas forcément l'endroit, et celui de « il est peut-être temps qu'on ait une parole politique ». Et ça, on n'a pas encore ce chemin-là, je pense.
Antoine Boss, un grand merci pour votre participation. Merci, Alex.
Je suis heureux que l'histoire continue.
Oui, et puis, s'il y avait un mot d'ordre, c'est « engagez-vous ». Alors, à suivre, à suivre... C'est
musique
pas, à suivre musique, effectivement, on va l'annoncer. Samedi prochain, vous retrouvez Jazzland avec un spécial Ricardo Delfra à l'occasion de la sortie de son coffret chez Frémo. On remercie René Clancy qui était à la technique, ainsi que le moment pour son accueil dans ses locaux. Et puis, n'oubliez pas, ce soir, l'émission spéciale « La France qui bat ». Ce sera un direct depuis la maison des métallos. On va se quitter avec une autre pépite de jazz migration, Adèle Viré, tirée de l'album Close to Water, To the Water. Adèle Viré, Close to the Water. Et on se dit à très bientôt. Bon été à vous. Et d'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Merci Antoine.
Merci Alex.
Merci à vous.